Galaxy 98.5.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, bienvenue sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, et nous allons continuer nos échanges avec un artiste qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer ici sur Radio Galaxy, Salvador Cavale, bonjour.
Bonjour.
On a eu deux émissions déjà que les gens peuvent réécouter en podcast sur le site de Radio Galaxy dans la rubrique « Artiste ». Dans laquelle on a commencé le début de la vie tumultueuse et riche de Salvador Cavale, qui est artiste peintre, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Aquarelliste. On est arrivé dans l'histoire, pour faire un résumé très rapide, au moment où vous vous êtes aperçu d'avoir quelques talents, j'allais dire, d'aquarelliste, de peintre, et de développer votre propre maison d'édition en vous déplaçant auprès de certains imprimeurs et de faire la tournée des petites maisons de province pour déposer vos œuvres qui ont été vendues assez rapidement, c'est ça?
Oui, c'est ça. Grâce à un imprimeur qui m'a fait confiance, j'ai ouvert sur 2 ans 350 points de vente, 30 galeries, encadreurs et imagés, avec mon petit carton dessin. C'est parti de rien, quoi.
Ça, c'était dans les années 70?
Oui, 70-80, oui. Alors, 80.
On est arrivé à la fin où ce travail de démarchage, ce travail de vente avec les encadreurs, les imprimeurs, devenait un peu lassant. Vous aviez envie de retrouver votre vie de peintre, donc ça suffit, on laisse tout et on va à Collioure. Oui. On était resté là.
Exactement, vulgairement, j'ai pété les plombs et je suis parti à Collioure où j'ai ouvert une petite galerie. Donc je n'avais plus l'imprimerie, je n'avais plus les 350 points de vente, les salons, etc. Et je suis revenu à la peinture avec une petite atelier.
Revenu à la peinture, mais quand même il y avait la continuité des ventes, c'est-à-dire que vous continuiez à produire des œuvres qui étaient vendues par les autres cette fois-ci.
J'ai continué à être éditeur de 2 de mes amis, parce qu'auparavant, quand j'étais en Irak, j'ai été éditeur de 22 peintres qui ont été primés durant 2 ans. Et là, j'ai gardé que mes 2 amis pour continuer l'édition avec eux.
Qui sont?
Christian Gragnou, très connu maintenant, il a démarré avec moi, et Gérard Toglaléris. Alors Toglaléris, c'est un nom qui s'est inventé avec son frère quand ils étaient petits et il s'en est servi comme un nom de peintre après.
Alors, on est à Collioure et puis on avait commencé à parler aussi des catalogues postaux à l'époque, des éditions Lavigne.
Ah oui, oui. En fin de compte, bon, le succès amène des demandes et donc j'étais à Collioure. Ah, j'étais content, j'ai une belle vie, hein. Bord de la mer, puis toutes ces obligations. Donc les calendriers Lavigne me contactent pour faire un calendrier de publicité, vous savez, pour les garages, pour les hôtels. Je leur cède les droits sur une vue de Collioure avec des mouettes et des barques. Et le contrat était de 1 tirage pour 1 année sur 1 pays. Donc ils me payent bien, très bien, pas de problème. Ils font leur calendrier qui est distribué, très bien. Et on verra après.
Petite galerie, on continue à peindre, on se fait plaisir.
Ah oui, vraiment. Alors j'ai retrouvé à goût beaucoup de choses. J'ai retrouvé de nouveau le goût de peindre, j'ai trouvé la vie d'artiste, quoi. Là, vraiment la vie d'artiste, avec un peu l'insouciance. Non, je profitais de la vie. Ça allait très très bien, j'étais très heureux, vraiment. En plus à Collioure, un endroit qui est quand même assez privilégié. Mais tout ça en prévision de partir un petit peu plus loin quand même.
C'est ça, parce que derrière ça, c'était un petit moment Collioure et après, retrouver le côté ensoleillé de l'autre côté des Pyrénées.
Je voulais retrouver mes origines, parce que moi je suis né dans la banlieue de Barcelone. Je voulais revenir en Catalogne, mais par prudence, parce que bon, quand on y va en vacances c'est une chose, mais s'y installer c'est une autre professionnellement, surtout si on est peintre. Et donc je me suis installé à Collioure pour être près de Barcelone, pouvoir faire des allers-retours, voir comment était la vie, comment le monde de l'art évoluait là-bas.
Un beau jour, on prend ses valises, on traverse les Pyrénées, on va à Barcelone. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Et là, Barcelone, ça ne me plaisait pas. C'était trop grand. J'y reste très peu de temps, j'y reste 3 mois, je crois, ou 4 mois. Et j'ai quelqu'un qui me dit, mais toi, t'es peintre, t'es fait pour la Sitges. Et moi, je ne connaissais pas Sitges. Et donc, me voilà reparti à Sitges. Et là, la découverte. Un endroit superbe, avec plein de petits restaurants, des petits ateliers, des créateurs. Et en fin de compte, je ne savais pas, mais c'était le Saint-Tropez espagnol.
Ça se situe où, ça, Saint-Tropez?
Ah ben, c'est juste à côté de Barcelone, c'est à peut-être 30, 25 km de Barcelone. Et je suis arrivé après les Jeux Olympiques, parce qu'avant, il fallait une petite route de corniche, et les gens, ils n'y allaient pas beaucoup. Et avec les Jeux Olympiques, ils ont fait l'autoroute, et c'était accessible à tout le monde.
Alors, à Sitges, ce qui était intéressant, c'est que là, on a décidé de voir grand tout de suite. On décide de monter une galerie de luxe.
Oui. Bon, je suis catalan, mais j'étais français jusqu'au bout des ongles quand je suis arrivé là-bas. Parce que j'ai ouvert une galerie dans le plein centre, 180 mètres carrés, très bien, grand luxe et tout. Et j'accroche mes œuvres. Et pendant 2-3 mois, je vendais, mais très peu. Les gens passaient, ils rentraient pas. J'ai dit, il y a un problème. Donc, j'ai tenu comme ça quelques temps. Et au bout de quelques mois, j'ai fermé et je suis parti. Là, vraiment, la veille d'Assises pour de vrai, je me suis fait des amis qui peignaient dehors, dans la rue, le soir, au Paseo, sur la plage. Ben, je vais aller avec eux pour voir. Et je vends. Les mêmes peintures que je vendais pas dans la galerie Luxe, dans la rue, je les vendais. Et donc, les amis me disaient, ouais, mais c'est normal. À qui? Chiringuito. À qui? Lujo nada. Il me dit, non, non, ici, monte un petit bouclard, tu verras, ce que tu fais, ça marche. Mais pas un truc de luxe, les gens, ils rentrent pas. Et j'ai ouvert un petit atelier, mais tout petit, et ça marchait.
C'était les mêmes peintures que celles qui étaient faites en France, ça?
Les mêmes. Décrocher d'un endroit, les mettre dans un autre, quelques mois plus tard, et je les vendais. Pourquoi? Parce que ça faisait trop luxe, c'était pas dans l'esprit du lieu. Parce que bon, peut-être qu'à Barcelone, ça aurait marché. Mais à Sitges, qui était réputé pour être bohème, des petits bouclards et tout ça, ça rentrait pas dans le truc. Moi, j'étais à côté de la plaque. Hein. Ça arrive. Hein.
Et ce qui a permis justement, cette fois-ci, de pouvoir s'installer en Espagne.
Voilà, là, je me suis vraiment installé en Espagne. Et là, ça marchait très bien parce que j'ai pu développer tout ce que j'avais entrepris. J'ai fait la même chose que j'avais fait en ouvrant des magasins un par un. J'ai fait la même chose avec des distributeurs. Au bout d'un an, un an et demi, j'avais 11 distributeurs sur 6 pays. Ce qui me permettait de continuer à faire l'édition, mais ne pas avoir la contrainte de tous ces salons, de tout le côté qui me pesait.
Commercial, ce côté commercial. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y avait déjà la continuité de la distribution en France,
oui.
Plus les 6 pays qui ont été ouverts en Espagne.
Voilà, les 6 pays qui ont été ouverts. Bon, j'avais l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Grèce.
Bon, jusqu'au Japon.
Oui, au Japon, Osaka, j'ai un distributeur aussi. Non, ça, j'étais très content, ça marchait très bien. Ah, vraiment, c'était vraiment très, très, très bien.
Tout marchait parfaitement bien.
Ouais.
Ça, c'était la grande époque magique avec la fête tous les soirs sur les plages espagnoles.
Oui, c'est un peu ça. Bon, c'est peut-être pas tous les soirs, mais souvent, ça, c'est vrai.
Et puis, patatras, la maison d'édition française se fait racheter par des Américains.
Alors, la première tuile, c'est que, bon, un an a passé, et donc j'apprends par des clients que j'avais toujours en contact que la vigne, l'année suivante, avait refait encore des calendriers. Sans me payer, sans me demander, et pas un pays, mais un ami par plusieurs pays. Le fait de quitter la France, ça leur a donné des ailes, on va dire, à ceux qui voulaient un peu faire n'importe quoi. Je les ai contactés, bon, ils m'ont dit qu'ils arrêtaient, mais je voulais pas entamer une procédure, bon, ils ont arrêté. Par contre, j'avais fait un contrat avec Modern Art à New York, qui fait partie du groupe Scafatornaben et qui était européen. Ils voulaient 10 peintures et méfiant, j'en aurais cédé que 2 pour les États-Unis, enfin pour la maison d'édition. Et donc, ils avaient racheté Pierrotto, celui qui était mon distributeur. Ils ont désossé la maison d'édition comme une voiture en pièces détachées. C'est-à-dire que bon, ils l'ont fermé et ils ont pris les plaques de zinc pour les gravures, la photogravure pour les éditions, etc. Et ils ont tout amené aux États-Unis. Et ils ont exploité tout ce qu'ils avaient, tout ce qui était fait pour imprimer, sans payer évidemment personne. Le problème, c'est que bon, moi, c'est pareil. Le contrat qu'ils m'ont fait pendant 25 ans, 28 ans, ils ont vendu. Moi, ils m'ont envoyé les premières années, tous les trimestres, vente zéro, vente zéro, vente zéro. Donc, pour les attaquer, il fallait que j'aille faire un procès à New York pour 2 peintures. C'est impossible.
Pour résumer très simplement, c'est que vous aviez un contrat avec le distributeur.
Otto, qui avait un contrat pour distribuer mes œuvres.
Pour distribuer
pas pour
vos
les éditer.
Œuvres.
Moi, je livrais en tant qu'éditeur. J'imprimais et je livrais les éditions à tous mes distributeurs. Quel qu'il soit, dans quelques pays, mais par paquet, quoi. C'était des gros colis. Mmh. Et donc, eux, en France, distribuaient.
Et les Américains ont mis la main sur cette maison?
Voilà, ils ont mis la main sur cette maison, ils l'ont démantelée complètement, c'est-à-dire qu'ils ont pris toute la photogravure, les plaques, parce que bon, la photogravure, c'est pour faire un offset, hein, mais ils ont pris toutes les plaques en cuivre pour faire les gravures, tout le matériel et tout le fonds de commerce, en fin de compte, la valeur qui était de cette maison d'édition, avec les contrats des peintres, ils ont pris, ils ont mené tout ça aux États-Unis. Donc, ils ont pu continuer à imprimer, à fabriquer aux États-Unis sans plus payer à personne.
Vous perdez votre distributeur. Vous ne pouvez plus vendre vos œuvres sur le territoire. Et les Américains, eux, ils ont 2 de vos œuvres. Et ils ont toutes les œuvres des autres peintres de ce distributeur.
Exactement. Enfin, moi, je ne perds pas la possibilité de vendre puisque moi, j'avais 11 distributeurs. J'avais signé une exclusivité avec personne. En France, j'avais 3 distributeurs. Donc, j'en perds un. Donc, pour moi, ce n'est pas dramatique. Mais par contre, pour les peintres qui étaient en exclusivité chez Pierrotto, c'est la catastrophe parce qu'eux, ils perdent tout.
Donc, vous êtes en Espagne, vous continuez votre travail de peintre en Espagne, vous avez perdu 2 pièces qui sont parties aux États-Unis, bah tant pis, et on continue à faire son travail, et avec 11 pays depuis l'Espagne.
Oui, depuis l'Espagne, je continue ma fonction d'éditeur de mes œuvres et de celles de mes amis, et pour ça, comme je n'ai plus, comme en France, l'imprimerie, l'encadrement, etc., je fais appel à un imprimeur de Barcelone. Alors, je choisis un des plus cotés, un des plus connus, puisqu'il est, comme moi, confrère éditeur, M. Hochstein, qui a une imprimerie, Graphicos Talliers Hochstein, très connu sur la place. Il est président de la patronale catalane d'imprimerie. Et quelques temps plus tard, il va devenir le président de la patronale européenne d'imprimerie. Donc c'est avec lui que je travaille et qui imprime, à qui je confie toute ma photogravure et qui imprime, depuis que je suis arrivé en Espagne, toutes mes éditions, que ce soit les normales ou que ce soit les éditions pour les lithographies numérotées signées.
Après, c'est distribué dans les 6 autres pays dans le monde.
Après, je distribue au travers des 6 pays, au travers des 11 distributeurs, enfin 10 puisque j'en ai perdu un. Je distribue, donc tout va très bien. Le volume est important, mes amis sont contents, tout le monde est content.
C'est facile ça pour un peintre ou pour un éditeur comme tel que vous à l'époque de donner ses plaques à un concurrent ou un partenaire?
Alors, en général, à ce moment-là, on n'était pas encore dans le digital et donc c'était analogique. Et donc les films, ce qu'on appelle la photographie, les films sont un élément très 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 important de l'activité, c'est le fonds de commerce de l'éditeur. Donc quand on remet cette photogravure à un imprimeur, il vous fait un papier signé comme quoi il reçoit la photogravure, parce que c'est très très important. Et il faut qu'il vous rende tout ce que vous lui avez donné une fois qu'il est imprimé. D'où l'importance de cette fameuse photogravure, ce qui permet de produire.
Et on le fait en toute confiance donc?
En général, oui, on le fait en toute conscience. En général, l'avenir nous dira que ce n'est pas évident.
Et à partir de là, donc, vous continuez votre travail, lui imprime, vous distribuez et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Ah oui, tout va très bien dans le meilleur du monde jusqu'au jour où j'ai des distributeurs qui m'appellent, pas contents du tout, et m'ont dit « qu'est-ce qui se passe ? On retrouve ce que tu nous fournis, un prix au ras des pâquerettes. » C'est-à-dire que moi je vends 15 francs ou 20 francs à un encadreur qui va le rendre 50, on le retrouve à 4 ou 5 euros au niveau du public.
4 ou 5 francs.
4 ou 5 francs, pardon. Donc, moi, je ne comprends pas. Le premier distributeur qui me dit ça en francs, je ne comprends pas. Deuxième distributeur qui me dit pareil, etc.
Vos distributeurs et vos revendeurs ont l'impression que vous êtes en train de les arnaquer.
Exactement. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nous vendre? Parce que les éditions étaient les mêmes, exactement les mêmes que les miennes, en qualité, en ancrage, en couleur, en copère, identiques. Vraiment, il n'y a pas de différence. Et donc, eux ont pensé avec raison, de leur point de vue, que c'était moi qui était en train de le faire un petit dans le lot et qui était en train de revendre à des prix cassés à tout le monde de partout.
Et vous remontez la chaîne et alors ?
La chaîne, je ne la remonte pas tout de suite parce que ce n'est pas évident. Je ne comprends pas ce qui se passe déjà d'une part, mais ça va très très vite parce qu'en fin de compte, en l'espace de 3 mois, pour faire court, je perds tout, je n'ai plus rien. J'ai plus de distributeurs, plus personne ne m'achète plus rien parce que le marché est saturé de ces éditions d'art, d'un catalogue, parce que j'avais 3 catalogues. J'ai un catalogue qui était affecté par ce phénomène, mais ça entraîne la chute des autres. Et donc je me retrouve, je n'ai plus rien.
Parce que les gens avaient perdu confiance.
Bien sûr. Ben, un distributeur qui vous distribue 3 catalogues, si vous le plantez sur un catalogue, il vous envoie promener.
Et c'était le même principe que précédemment, c'est-à-dire que chaque distributeur avait très peu de pièces et pas 50 pièces à vendre, peut-être 3, 4, 5 pièces?
Non, parce qu'en fin de compte, ma politique a un petit changé. J'avais 3 catalogues qui étaient différents. Le normal, le tradition, le prestige. Le prestige, c'est tout ce qui était édition numérotée signée. Et c'était mon cheval de bataille. C'était vraiment là-dessus que j'étais le meilleur, c'est là-dessus que je faisais le plus de chiffre d'affaires, c'est les plus haut de gamme. Et ensuite, j'avais un catalogue, la moyenne gamme, on va dire, où il n'y a pas de quantité. Le haut de gamme était imprimé à 300 exemplaires grand maximum, et les autres, ils étaient imprimés à 2000, 5000, 10000, il n'y avait pas de quantité. Donc, c'était des gros volumes.
Alors, il s'est passé quoi ?
Ben, il s'est passé que j'ai tout perdu, déjà d'une part, et que, évidemment, au bout d'un certain temps, je ne suis pas trop stupide, je me suis dit, je sais d'où ça vient, c'est-à-dire que c'est l'imprimeur qui a fait des surtirages. Je pensais pas qu'on avait copié la photogravure. Je pense qu'il avait fait des surtirages. C'est-à-dire que moi, j'en ai imprimé 1000. Il a imprimé 2000 ou 3000 pour lui, qu'il avait gardé. Et donc, c'est avec ça qu'il m'avait coulé.
En fait, c'est ça. C'est ce que vous disiez. C'est qu'il avait ces fameux films qui sont les originaux non ancrés. Et donc, il en a tiré plus que ce que vous commandiez.
Lui, il faisait du surtirage. Mais moi, j'ai pas pensé qu'il avait copié toute la photogravure. Pendant 3-4 ans qu'il a été mon fournisseur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que ça allait s'arrêter et qu'au moment donné, quand il n'y aurait plus de surtirage, j'allais pouvoir reprendre mon activité. Mais ce n'était pas le cas, puisqu'il avait aussi fait des copies de tous les films. La différence qu'on verra, je ne sais pas si je le dis maintenant ou tout à l'heure, c'est que là, par rapport au surtirage, je ne peux strictement rien faire parce que je ne peux pas prouver que c'est les miens. Donc, je ne peux pas aller ni en justice, ni réclamer rien. Par contre, du moment où ils sont obligés de fabriquer avec la photogravure, qui n'est pas une photogravure originale, mais qui est une photogravure copiée, là, je vois la différence. Je vois tout de suite que ce n'est pas le même tirage. Les couleurs ne sont pas les mêmes, la trame n'est pas la même, il y a des différences de millimètres, il y a beaucoup de choses qui font que là, je peux prouver que ça n'a pas été fait avec les films originaux.
Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous retournez contre cet imprimeur ?
Alors, peut-être qu'il faudrait que je le dise un petit peu avant ce que je faisais, parce que durant ces 2 ans, Ça a duré un an et demi, j'ai tout perdu. Donc, il a fallu que je reprenne une activité. J'ai eu de la chance parce que bon, j'étais à Sitges. Juste à côté, il y avait Venka, qui est la filiale espagnole de Trois Suisses. Et donc, comme j'avais des connaissances en imprimerie, j'ai fait une première mission chez eux. Et donc, j'ai eu de tellement de bons résultats qu'ils ont voulu m'embaucher. Pour faire court, j'ai travaillé pour Trois Suisses Espagne, pour Ikea, pour Decathlon, pour Verbourdet, pour les catalogues Bruno, pour tout ce qui est des fabrications de grands catalogues.
Petite précision quand même, c'est que donc cette maison Vinca voulait vous embaucher, vous avez dit non, je ne veux pas travailler pour vous, par contre vous êtes installé comme consultant indépendant, ce qui vous a ouvert les portes vers les autres catalogues.
Exactement, j'allais trop vite là. C'est vrai que bon, cette mission m'a ouvert la porte pour tout le reste. Et j'avais une qualité, bon, on a les musiciens qui ont l'oreille absolue, ils écoutent quelque chose, ils le reproduisent nickel. Alors moi je ne suis pas musicien, mais je dois avoir l'œil aussi absolu, parce que l'important par exemple pour Trois Suisses quand ils vendent des vêtements, on fait un shooting avec le modèle et on a la photo du vêtement porté par le modèle. Et on a un bout de tissu à côté et il faut qu'évidemment le catalogue corresponde vraiment au vêtement qu'on va vendre.
Que la couleur soit la même.
Que la couleur soit la même, que l'espèce soit la même, sinon il renvoie. Il y a un appareil qu'on appelle le densitomètre qui permet de mesurer les valeurs de tout ça. Moi, je n'en avais même pas besoin. Je regardais le petit bout d'échantillon qu'on me donnait, je regardais le chromalin et je disais, c'est bien simple là-dessus, on va baisser de 3% le jaune, monter de 4% le rouge, on va mettre 2% de noir de plus, mettons 4 de moins de bleu. Et patapan, je tombais sur la couleur de la fringue. Donc ça, c'était l'avantage. Et pour moi, c'était merci mon Dieu encore, merci l'univers de m'avoir donné ce coup de bol, quoi. Grâce à ça, j'ai pu avoir beaucoup de succès et avoir des clients importants.
Des clients importants, prestigieux. Ce qui nous a permis surtout maintenant, c'est de pouvoir vivre déjà de votre métier et surtout de mettre un peu d'argent de côté.
Ben, je mettais un peu d'argent de côté parce qu'il allait, dans les 10 années qui allaient suivre, il allait m'en falloir vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que entamer une procédure judiciaire, c'est long et c'est très coûteux. Donc, si on n'a pas d'argent, on n'y arrive pas.
Mais pendant cela, vous continuiez à perdre un petit peu?
Très peu, très très peu. J'avoue que j'étais un peu déçu, j'étais un peu touché. Je peignais, mais très très peu. Et puis, j'avais beaucoup de travail aussi au niveau de...
De votre comité de consultants, voilà, et de coloristes, voilà, bien sûr. Ouais. Ah, alors, ok, ça a duré combien de temps de...
Ça a duré à peu près, avant que je retombe sur ce qui va déclencher la grande opération, à peu près un an et demi à peu près. Et donc, un jour, je tombe chez un encadreur, pas loin de chez moi, sur mes collections que j'étais fatigué de voir parce que de temps en temps je les voyais, je tombe sur ma collection et alors là, j'ai dit, c'est bon. Pas le même aspect, pas le même copyright, ils avaient mon copyright avec d'autres copyrights, alors ça c'était la panacée. L'aspect n'était pas le même, les couleurs n'étaient pas bonnes, la photogravure, on voyait qu'il y avait des différences et là j'ai commencé à acheter partout. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé en Espagne et j'ai regardé. Et j'ai commencé à en acheter en Espagne, j'ai commencé à en acheter en France, j'ai commencé à en acheter partout.
Vous aviez racheté vos propres copies?
Ah oui, j'achetais partout des copies. Parce qu'en plus, entre-temps est arrivé le numérique, les années étaient passées, donc c'était le début d'Internet. Le chemin de croix que je vais entamer va durer 10 ans. Plus le temps passe et plus je retrouve sur les réseaux, sur Internet, des copies pirates. Mais vraiment, ça c'est vraiment de la piraterie.
Comme ça s'est produit pour la musique, comme ça s'est produit pour le cinéma, ça s'est produit pour vous également sur vos œuvres picturales.
Exactement.
Où en fait vos peintures ont été piratées.
Piratées. Tout le catalogue où il y avait 40 modèles de peinture, dont deux de mes amis et moi, on était trois, 40 modèles en 4 formats, donc ça fait 160 références. Et il y avait toujours tous les formats de mon catalogue, mais avec une qualité vraiment carrément mauvaise. Et surtout, il y avait un copyright qui, des fois, n'était pas le mien. Là, ça, c'était le gros lot pour moi.
Et ça, c'était pas que pour vous, c'était pour vos confrères peintres aussi.
Eh bien, il faut dire que quand on signe un contrat d'exclusivité avec un éditeur, on lui cède tous les droits. C'est-à-dire, le peintre n'a plus le droit sur l'œuvre. En tant qu'éditeur, on a des droits, mais on a des devoirs aussi. Et le devoir, c'est de protéger l'auteur et de protéger les intérêts de l'auteur. Donc, moi, j'étais aussi dans l'obligation morale de défendre l'intérêt des gens qui m'avaient confié l'exclusivité des droits de leurs œuvres. Donc, c'est pour ça que c'est très important, quand un créateur signe un contrat d'édition avec l'exclusivité, qu'il regarde vraiment toutes les lignes et tout, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important.
Vous vous êtes rendu compte que vos œuvres ont été piratées, qu'elles sont distribuées dans le monde entier, que vous et vos deux peintres amis pour lesquels vous imprimiez également ne touchaient à rien du tout sur toutes ces ventes et que le marché est inondé de copies frauduleuses. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Et c'est là qu'on verra ça dans la prochaine émission.
D'accord.
Caser et autour de Caser, on écoute Radio Galaxy sur le 98.5 FM.